Bonjour à tous, à la une de l'actualité de ce lundi 27 janvier 2020. Votre tension, votre diabète ou même votre glycémie suivie à distance, la télésurveillance se met au service de la médecine dans les Alpes du Sud. Pendant un an et demi, ils seront 36 patients volontaires et atteints de pathologies chroniques à tester des capteurs embarqués connectés. Il fait actuellement le tour des massifs pour rencontrer les représentants des syndicats de Force Ouvrière dans les différentes stations. Eric Baker, secrétaire fédéral de Force Ouvrière au transport en charge des remontées mécaniques et des saisonniers, se dit inquiet face à la réforme du chômage. Laurent Jalabert a donné le top départ à Sisteron. Une délégation du Tour de France était présente dans la citadelle vendredi pour donner un coup d'envoi fictif des étapes qui feront escale pour l'édition 2020. Pour la prochaine édition de la Grande Boucle, Sisteron sera à la fois le 29 juin ville d'arrivée d'étape et aussi ville de départ le lendemain. Neuville plus fort que les Toyota et donc que Sébastien Ogier, le Belge, a remporté ce Monte Carlo 2020 devant le sextuple champion du monde des rallyes et Haut Alpin qui était maître de l'épreuve depuis 6 ans. Votre tension, votre diabète ou même votre glycémie suivie à distance, la télésurveillance se met au service de la médecine à Embrun. Pendant un an et demi, ils seront 36 patients volontaires et atteints de pathologies chroniques à tester des capteurs embarqués connectés. 4 services de soins infirmiers à domicile jouent également le jeu à l'Argentière, la BC, Guillestre, Josier et Embrun où l'opération a été lancée jeudi. Pierre Lutzler est médecin en gériatrie. Il explique quelles constantes de santé seront surveillées.
Il s'agit d'une étude d'usage qui rassemble les Français et les Italiens dans le cadre d'un projet européen et qui vise à mesurer par des objets connectés différentes constantes physiologiques. Alors derrière les termes un petit peu savants, c'est la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le taux de sucre dans le sang, le taux d'oxygène, etc. Et donc de pouvoir, pour des personnes qui sont isolées, pouvoir bénéficier de la surveillance de ces constantes avec beaucoup plus de facilité que s'ils devaient se déplacer dans un endroit éloigné. Que chaque bénéficiaire aura les capteurs qui correspondent à la pathologie que l'on souhaite suivre. Tension artérielle, pour un diabétique, possibilité de suivre ses glycémies à distance.
L'objectif général du projet vise à améliorer la prise en charge médico-sociale des plus fragiles en réduisant les coûts des interventions d'urgence.
Ce qu'on en attend, c'est une bonne acceptabilité de cette surveillance, aussi bien par les professionnels que par les patients bénéficiaires. Après, pour élargir au-delà de la finalité de cette étude proprement dit, ce qu'on en attend, c'est de pouvoir mieux surveiller les pathologies chroniques telles que les insuffisances cardiaques, les diabètes, afin d'éviter des situations d'urgence. L'idée de la télémédecine de façon générale et de cette étude en particulier n'est pas de se substituer à un maillage territorial raisonnable. Elle vient en plus du maillage actuel.
Cette étude fait partie intégrante du programme transfrontalier européen Alcotra-Terre-Monviso, bien vieillir pour un budget de 1,6 million d'euros réparti à 50-50 entre la France et l'Italie. Guillaume Plagnol est directeur associé Europe Développement.
Sur le secteur des Hautes-Alpes et de la province de Cuneo, ça fait une quinzaine d'années qu'il y a des petites, sans vouloir les minorer, mais des petites coopérations sur le domaine socio-sanitaire. Là, ce projet Thermoviso INCL, sur le bien vieillir, intègre ce qu'on appelle un programme territorial transfrontalier, et donc il rassemble 5 projets complètement différents des uns des autres, qui vont de l'innovation dans le monde de l'économie à l'approche médico-sociale auprès des populations des Hautes-Alpes. Donc on était sur un terrain favorable et complètement complémentaire à une stratégie globale transfrontalière sur les Thermoviso.
Au bout des 18 mois d'études, un rapport et des publications seront réalisés portant sur l'acceptabilité de la télémédecine par les patients et les soignants, l'analyse de l'efficacité en quantifiant le nombre de réponses médicales apportées et le recueil des incidents ou dysfonctionnements technologiques ainsi que des réponses à ces derniers. Il fait actuellement le tour des massifs pour rencontrer les représentants des syndicats de Force Ouvrière dans les différentes stations. Eric Baker, secrétaire fédéral de Force Ouvrière au transport en charge des remontées mécaniques et des saisonniers, se dit inquiet face à la réforme du chômage. Une entrevue a d'ailleurs été demandée au ministère du Travail avec le rédacteur de la nouvelle loi sur l'attribution du chômage. Le rendez-vous est attendu le 28 janvier prochain en fonction des négociations si gain de cause n'est pas obtenu. Des actions pourraient être mises en place dans les stations le 15 février. Même si la population de saisonniers est difficile à comptabiliser, elle se situe, selon le secrétaire fédéral de Force ouvrière, majoritairement dans les territoires alpins. Eric Becker était à Gap vendredi dernier. Pour lui, cette réforme contribuerait à précariser un peu plus cette population tout en vidant des vallées. Écoutez-le.
Il y a deux modes de calcul qui ont changé. Le calcul sur les périodes prises en compte, donc il faut avoir travaillé 6 mois, consécutifs ou pas. Ensuite, il y a le mode de calcul qui change. Précédemment, on prenait la période de travail qu'on divisait par le nombre de mois et le nombre de jours pour obtenir le calcul de la base de rémunération. Maintenant, ça ne sera plus le cas puisqu'on prendra la période intégrale. Ça fait baisser en moyenne sur un salaire, on va dire, de 2000 euros mensuels brut, on perd en gros entre 300 et 350 euros. C'est sur le montant de cette allocation, du calcul de cette allocation, que ça va changer complètement la vie. La plupart des saisonniers sont sédentarisés, mais quand vous avez pérennisé, on va dire, votre vie dans une vallée, vous n'envisagez pas de partir en Bretagne chercher des huîtres. Et surtout sur une période très courte, ce qu'on risque à terme de voir, c'est que tous ces gens qui se sont sédentarisés dans les vallées et qui participent à la vie économique des vallées aussi, s'en aillent. On risque d'avoir vraiment une hémorragie parce que l'emploi ne sera plus viable.
Des propos recueillis par Aurore Valori. Laurent Jalabert a donné le top départ à Sisteron. Une délégation du Tour de France était présente dans la citadelle vendredi pour donner un coup d'envoi fictif des étapes qui feront escale pour l'édition 2020. Et parmi ces délégations, donc, l'ancien cycliste Laurent Jalabert.
Le Tour de France, c'est quand même une sacrée aventure, une très très belle aventure. Et partout où il passe, il soulève des foules. On aime le Tour. Et effectivement, Sisteron se réjouit de l'accueillir pour une ville étape arrivée et un départ le lendemain. Et à l'occasion des trophées des sports, c'était l'opportunité de faire coup double pour le coup. Il y a beaucoup de villes étapes, mais il y a surtout beaucoup de villes candidates pour être ville étape et elles ne sont pas nombreuses à être élues, à être retenues. Et seulement 3 d'entre elles seront sur la prochaine édition ville arrivée et ville départ. Donc voilà, Sisteron fait partie et ça va être une mise en lumière sur le plan mondial, comme il n'en existait pas beaucoup ailleurs.
Pour la prochaine édition de la Grande Boucle, Sisteron sera à la fois le 29 juin ville d'arrivée d'étape et aussi ville de départ le lendemain. Une étape Nice-Sisteron de 198 km qui empruntera la célèbre route Napoléon avec une arrivée au pied de la citadelle, puis un départ le lendemain pour Orsières-Merlette. Un statut original que la ville partagera cette année avec Lyon et Méribel pour un budget de 200 000 euros. Daniel Spagnou, le maire.
C'est la première fois pour l'histoire de la ville de Sisteron. On va avoir un départ et une arrivée. J'en rêvais, je l'ai obtenu et je remercie M. Prudhomme qui nous fait confiance parce qu'on est une petite ville et c'est une grosse, grosse organisation. Mais je vois bien que la population est mobilisée autour de ce projet. On l'a vu cet après-midi avec M. Jalabert. Donc je crois que ça se passera très bien parce que c'est un événement international qui est regardé dans le monde entier.
Laurent Jalabert a consacré quelques minutes aux cyclistes de la Roue d'Or Sisteronais et à ses responsables avant d'aller visiter le lycée Paul Arène. En soirée, il est attendu à l'Alcazar comme invité d'honneur de la remise des trophées du sport 2020.
Alpin Sport. Alpin Sport.
Thierry Neuville plus fort que les Toyota et donc que Sébastien Ogier. Le Belge remporte ce Monte Carlo 2020 devant le sextuple champion du monde des rallyes et haut alpin Sébastien Ogier qui était maître de l'épreuve depuis 6 ans. Le Belge aurait été impérial sur la dernière journée menant à Monaco en s'adjugeant les 4 spéciales de la matinée y compris la dernière, la Power Stage à égalité de temps avec Ogier. Finalement, c'est au millième que les deux pilotes se seront départagés. Le champ serein se consolera avec la deuxième place au général volé à son équipier sur Toyota Elfyn Evans. C'est sur le prochain rallye qui ne le verra donc pas en leader.
C'est aussi lui qui a accepté de prendre le plus de risques parce qu'on a clairement vu qu'à chaque fois il a fait la différence dans des conditions vraiment piégeuses. Mais bon, c'est ce qui fait la magie du Monte Carlo et c'est ce qui fait que sur un rallye comme ça, on est capable de temps en temps de faire des écarts plus qu'ailleurs. Et voilà, nous on en a à l'inverse dans ces parties-là toujours été un petit peu trop prudent, un petit peu trop sur la défensive et finalement c'est sur un faible pourcentage du rallye qu'on perd la course finalement, qu'on perd le plus de temps. J'ai pas envie, honnêtement je pense que cette petite déception de ne pas gagner aujourd'hui va très vite être oubliée et on va déjà se concentrer sur le prochain rallye avec l'avantage de ne pas avoir ouvert la route sur le, sur la prochaine épreuve qui sera soit en Suède si elle a lieu, soit au Mexique.
Côté pilote locaux, Nicolas Latil se sera battu jusqu'au bout après ses déboires des jours derniers pour récupérer la première place des pilotes des Alpes du Sud. C'est chose faite après cette dernière spéciale qui le voit passer devant Christophe Ganguet et Renaud Dols. Il termine 23e au général.
Oui, c'est vrai que toujours un rallye Monte Carlo égal à lui-même. C'est vrai qu'on a trouvé des conditions dignes de ce fameux rallye. Et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. C'est vrai que bon, deux crevaisons, une commande d'accélérateur bloquée à fond dans la première spéciale, on casse le support de commande de boîte à vitesse. Donc bilan, une quinzaine de minutes perdues dans la totalité du rallye. Mais bon, voilà, on est proche du top 20 et heureux, proche du podium aussi, puisqu'on finit quatrième des non prioritaires. Donc voilà, un peu déçu, mais content. Aujourd'hui, on s'est fait très plaisir. On a fait des chronos dans le 18e temps, 19e temps, juste très près des pilotes prioritaires. Et donc, c'est une belle satisfaction malgré tout.
Un rallye Monte Carlo que vous avez pu suivre en direct sur Alpe 1. Hockey sur glace, et après s'être imposé face aux boxeurs de Bordeaux vendredi soir, les Rapaces de Gap se sont payés hier les leaders de la Ligue Magnus, les Brûleurs de l'eau de Grenoble, et qui plus est, sur leur patinoire. Une victoire 3-2 acquise dans les tout derniers instants sous la crosse de Bostian Golicic suite au magnifique doublé de Romain Gutiérrez. Les Rapaces peuvent donc continuer de rêver au play-off alors qu'ils prennent 4 points d'avance au classement sur Anglette. Prochain rendez-vous, ça sera vendredi à domicile face au Gothic d'Amiens. Pour les Diables Rouges de Briançon, on a frôlé l'exploit, mais c'est une défaite 6-4 face à Nice malgré une belle remontée au troisième tiers. Ce mardi, Briançon reçoit les Dragons de Rouen. Et puis, on conclut ce journal avec du ski alpin et Nils Alphen qui a remporté la deuxième descente de Coupe d'Europe ce samedi à Orsières-Merlette. Une première pour le skieur de Serre-Chevalier qui s'est imposé devant le Suisse Cédric Hochner et l'Autrichien Niklas Koch. Valentin Giremoine partage la 7e place avec Ken Caillot.
L'actu des Alpes du Sud continue sur les applications pour smartphones.